que nous sommes encore dans ce temps de carême, de cinquième semaine de ce temps de carême, de ce temps d'introspection, de jeûne et de prière pour nous préparer justement à la semaine sainte. Donc, comme vous avez pu voir, à chaque semaine, il y a un thème différent pour nous encourager à continuer à prier, à réfléchir à ce que le Seigneur veut nous dire. Et cette semaine, c'était vraiment une prière sur notre Église, sur l'Église, le corps du Christ. Et on a besoin de prier parce que même dans ce temps que nous vivons, Dieu a besoin encore de pouvoir mettre sa puissance pour pouvoir avancer. Et je crois que ce temps de carême est toujours un temps propice pour nous arrêter et de prier les uns pour les autres. Nous devons nous préparer, comme on dit, dans ce temps de carême. Et c'est aussi justement le thème que nous sommes en train de voir dans ces prochains temps par rapport au combat spirituel. Comme un soldat qui va à la guerre, avant d'aller sur le terrain, il doit se préparer, il doit se former, il doit s'entraîner pour qu'il puisse être alerte, pour qu'il puisse discerner l'ennemi, qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il doit faire. La même chose aussi pour un chrétien, on a besoin aussi de comprendre c'est quoi le combat spirituel. Et aujourd'hui, on va regarder par rapport c'est quoi le discernement, comment discerner, comment vivre ce discernement dans le combat spirituel. Une partie de réflexion a été prise dans un livre que je lis sur le combat spirituel, écrit par un pasteur Emmanuel Maillon, et qui dit justement, regardez ce qu'il dit par rapport au combat spirituel. Il dit, le combat spirituel est l'opposition que le chrétien ou celui qui s'approche du Christ rencontre face aux puissances des ténèbres. La victoire sur ces puissances se trouve dans le Christ seul, ainsi que dans l'aide que des personnes compétentes éclairées peuvent apporter sur ces réalités spirituelles. Par la puissance de l'Esprit, ces personnes pourront faire preuve de discernement et conduire le chrétien tourmenté vers la liberté, vers la libération. Donc on a besoin, on voit que le combat va se faire. Et aujourd'hui, on va regarder justement quelques domaines où l'ennemi va attaquer. Comment nous devons discerner les situations qui se passent devant nous afin qu'on puisse vraiment aussi prendre les armes que le Seigneur nous donne pour pouvoir résister et avancer et surtout gagner la bataille. Donc, le combat spirituel, c'est quelque chose qui est très important. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, ah ben aujourd'hui je me sens bien, puis je vais combattre, puis ah, demain, non, non, je suis assez faible, je suis un peu morose, je vais laisser faire. Le combat se fait à tous les jours et on sait que l'ennemi va s'acharner sur nous, principalement lorsqu'on est faible, lorsque peut-être on ne s'attend pas, parce qu'il veut nous faire tomber. Comme les stratégies de guerre, et des fois il y a des accalmies, hein, des fois il y a des temps où on n'a pas vraiment d'attaque, on se dit, ah ben la vie va bien. Mais des fois, un contour, un changement dans notre vie, et on, là, on voit les attaques qui viennent, qui reviennent, qui s'acharnent de plus en plus fort sur nous. Donc, tel un lutte sur le champ de bataille, le combat spirituel fait rage, et cela à plusieurs niveaux. On a vu ça la dernière fois. C'est d'abord, avant tout, un combat contre nous-mêmes, ou plutôt contre le péché, contre le mal qui se colle à notre peau. Contre la tentation, contre les démons qu'on verra bientôt, sont loin d'être toujours responsables de tout ce qui nous arrive. Trop souvent, on met toujours la faute, ah ben c'est tout ce qui arrive dans notre vie, ah ben c'est l'ennemi, c'est les démons et comme ça. Mais oui, Satan va s'acharner sur nous, il veut nous faire tomber. Mais nous avons aussi un besoin de voir que nous-mêmes aussi, devant le péché, c'est à nous de prendre la responsabilité de savoir si on veut résister ou pas. Nous avons aussi le deuxième point, un combat au niveau du renouvellement de notre intelligence. En effet, depuis notre temps d'enfant, justement, on a été abreuvé de messages, de paroles, d'influences diverses. Quel que soit où on vient, de la culture dont on vient, ben on va agir différemment. Donc une partie du combat justement spirituel consistera à nous laisser transformer, de dire Seigneur, aide-moi à transformer mon intelligence pour que je puisse comprendre quel est le véritable combat que tu aimerais que je mène aussi contre les forces du mal. Il est dit justement dans la parole de Dieu que Dieu veut renouveler notre intelligence afin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et troisième point, un combat contre le monde des ténèbres, contre les démons, contre les puissances démoniaques. Et on le voit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12 qui dit, « Car nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Donc ce combat est là, ce combat est présent en tout moment, envers chaque chrétien sérieux qui veut honorer suprêmement Dieu. Je dis un chrétien sérieux parce qu'il y a certains, peut-être chrétiens, qui ne veulent pas rentrer dans ce combat, qui disent non, ça c'est pas pour moi, c'est plus pour les spirituels ou les pasteurs ou les gens qui sont sur le terrain, sur la mission. Mais chacun de nous, on a un combat à mener qui est différent, mais on a besoin aussi de mener. Là, justement, la dernière fois, on a vu deux grands pièges qui se présentent devant nous face au combat spirituel. Le premier, c'est voir le diable et les démons partout. On se met en colère, on est fâché, on a un esprit de colère. Vous arrivez de mentir, vous êtes habité dans l'esprit de mensonge. Vous avez du mal avec l'autorité, vous avez un esprit de rébellion. Hein. Vous aimez l'argent, l'esprit de maman vous tient. Vous êtes attiré par d'autres femmes que la vôtre ou par d'autres hommes que votre époux. Vous aimez vous habiller d'une manière peut-être plus sexy. Alors vous êtes habité par l'esprit de sirène ou des eaux. Et le nombre de critères, ça peut encore aller de loin. Souvent, on va mettre la faute sur le diable ou sur le démon. Ah, si je suis comme ça, c'est à cause de lui. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous mettez en colère, que vous avez un esprit de colère. On ne trouve pas dans le Nouveau Testament un passage où Jésus ou un de ses disciples va chasser le démon de la colère ou va chasser le démon du vol ou de l'esprit de sirène. Voilà pourquoi c'est important d'avoir du discernement afin de ne pas tomber dans le piège du mensonge. Le diable n'est pas responsable de tous nos problèmes. Lorsqu'on tient un peu ce genre de discours, la tendance est souvent de dire que de tout spiritualiser toutes nos difficultés, toutes nos émotions, toutes nos épreuves, et que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, mais pas de nous. Le deuxième piège qu'on voit, c'est de rien voir. Si le premier piège est de voir des mondes partout, le second, lui, il ne voit rien du tout. Il y a un certain nombre de chrétiens dans certaines communautés qui veulent voir absolument rien. Ils veulent volontairement se cacher de ces choses parce que c'est plus facile d'ignorer. C'est plus facile d'ignorer le combat spirituel que de rentrer dans le combat. Mais souvent, malheureusement, si on ne discerne pas le combat, on risque de tomber quand même. Donc, notre attitude aujourd'hui devant le combat spirituel, c'est de réaliser qu'il est là et que nous avons à lutter, à rentrer dans ce combat. Ce n'est pas de le nier, ce n'est pas de trop dire que ça ne nous intéresse pas, mais surtout de discerner les attaques, les combats, afin de combattre justement l'ennemi. Non pas avec nos armes, non pas avec notre intelligence, mais avec l'Esprit de Dieu, avec la parole du Seigneur. Oui, la parole de Dieu est une arme, une grande arme, comme aussi la prière, le jeûne et aussi d'autres façons. Alors, justement, on va voir comment discerner l'œuvre de l'ennemi autour de nous. Voilà des points importants. J'aimerais que vous puissiez les écrire parce que c'est important de pouvoir réfléchir, d'aller voir les textes bébés qu'on vous propose, mais surtout de pouvoir continuer de méditer aussi. Premièrement, soyez pleinement conscient que le but de l'ennemi est de détruire les enfants et les serviteurs de Dieu. L'œuvre que Jésus construit, c'est son Église, c'est vous et moi. Mais lorsqu'on voit justement les serviteurs de Dieu qui souffrent, qui sont malmenés, qui veulent tout abandonner, qui n'en peuvent plus, c'est vrai qu'il peut y avoir des facteurs humains qui permettent d'expliquer pourquoi que peut-être ils veulent quitter le ministère. Mais il y a souvent un enjeu spirituel en arrière et qui nous dépasse. Le diable et ses anges veulent cribler, déstabiliser, ils veulent évincer, éradiquer un homme, une femme qui proclame Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'importance de soutenir les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu dans la prière, dans l'encouragement. Parce qu'ils sont en première ligne. Comme dans une guerre, celui qui a le plus atteint, c'est le soldat qui est devant. Et justement, les serviteurs, que ce soit les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes, les missionnaires ou toute personne qui œuvre directement dans l'œuvre, on a besoin de les soutenir, de les encourager. Deuxième point, la zizanie est une des ruses du diable. J'ai mis une belle photo, je ne sais pas si vous avez déjà lu les bandes dessinées justement de Astérix et Obélix. Et justement, il y avait une de ces bandes dessinées où l'empereur justement essayait de voir comment est-ce qu'il pouvait justement essayer de pouvoir combattre ce village de Gaulois qui n'arrivait pas. Et quelqu'un qui a dit à l'idée, ben, tu peux amener une personne qui amène la zizanie. Et c'est vrai qu'on voit dans cette bande dessinée comment que cet homme est capable, justement, juste par des paroles, par des attitudes, d'amener la zizanie pour que le village se divise. Chaque fois que vous voyez des querelles dans les églises, des jalousies, des divisions, des manipulations, des chantages, du commémorage, des demi-vérités qui sont dites un peu en arrière, des paroles méchantes, vous êtes certain que le père du mensonge et ses anges sont dans le coin. Je ne dis pas que les personnes qui agissent mal sont possédées, mais ce qui est certain, c'est qu'elles ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu. L'ennemi a semé la zizanie dans le cœur et dans leurs pensées. Voilà pourquoi il faut demander à l'Esprit de Dieu qui nous accorde le discernement nécessaire. C'est dans la prière et dans l'écoute de l'Esprit que Dieu va nous parler et nous éclairer. Et je crois que dans ce temps que nous vivons, on a besoin du discernement. Parce que l'ennemi est en train de travailler, de faire des ravages dans l'Église et dans la société. Et souvent, les chrétiens rentrent dans ce piège aussi que l'ennemi est en train de mettre. Souvent, dans nos églises, dans ces derniers temps, on s'est divisé par rapport à certaines choses qui s'est passées, par rapport à la pandémie, par rapport au vaccin, par rapport aux mesures ou par rapport à toutes sortes d'autres situations. L'ennemi est en train de gagner. Et voilà pourquoi nous devons discerner pour pouvoir combattre vraiment l'ennemi, pour pouvoir gagner et de pouvoir enlever justement toutes ces zizanies, ces tensions, le ravage que l'ennemi fait dans l'Église. Alors maintenant, regardons quatre domaines d'action de l'ennemi. Quatre domaines principaux où l'ennemi va attaquer. Le premier, c'est les hommes, les humains, les femmes. Est-ce que vous n'êtes pas déjà arrivé à vous dire, mince, alors je suis de nouveau fait avoir par le diable, hein? Je suis de nouveau tombé dans son piège. C'est vrai qu'en tant que chrétien, on peut tomber facilement dans les pièges de Satan. Ce n'est pas parce qu'on a reçu la présence de Dieu, le Saint-Esprit en nous, que Dieu nous a pardonné, qu'on ne peut pas tomber, qu'on ne peut pas être tenté, que l'ennemi n'arrive pas à nous utiliser justement pour son œuvre de destruction que Satan veut faire. Le Nouveau Testament dépeint Satan comme le prince de ce monde. On peut voir ça dans Jean 16, verset 11. Donc, il est par conséquent le prince des habitants de ce monde. Et c'est vrai qu'il va beaucoup attaquer ceux qui ne connaissent pas Jésus et qui lui sont soumis. Il va vraiment attaquer justement le monde autour de nous. Mais la Bible relève aussi que les capacités d'action du diable, de l'ennemi, ne se limitent pas à ceux qui ne croient pas en Dieu, mais il s'attaque aussi aux enfants de Dieu, aux croyants, à ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et regardons un exemple frappant de comment que l'ennemi utilise un homme, un leader comme Pierre. Alors j'ai demandé à une personne de lire Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Ouvrez votre Bible, il y a des Bibles en arrière aussi pour ceux qui sont dans la salle. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen.
Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire justement de voir une telle affirmation devant tous? Comment il devait être fier, Pierre, d'avoir bien compris et saisi qui était Jésus. Jésus va dire à Pierre que ce n'est pas son propre intelligence, ce n'est pas lui-même qui a révélé qui était le Messie, mais c'est le Saint-Esprit. À ce moment-là, on pourrait dire que Pierre a tout compris, non par son intelligence, mais par l'Esprit de Dieu, qui était Jésus et ce qu'il est venu faire. Mais regardez dans le même chapitre, quelques versets plus loin, on voit Jésus parler à ses disciples de ce qui va arriver, justement, dans ce temps de Pâques, qui devait aller à Jérusalem, souffrir, être mis à mort, être ressuscité. Alors lisons justement les versets 21 et 23 dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, versets 21 et 23.
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen.
Amen. Imaginez, quelques instants plus tard, on voit que justement, que Pierre va presque comme on pourrait dire, renier le travail, le ministère de Jésus. On sait que Pierre a été une personne clé dans le développement de l'Église, du corps du Christ. Il a été inspiré par le Saint-Esprit de faire de grandes choses. Mais aujourd'hui, là, en ce moment, on voit que Jésus va lui dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui travaille en toi, ça c'est ton intelligence. C'est quand même un peu spécial de voir que Pierre a été capable d'avoir une réponse inspirée par l'Esprit de Dieu et quelques instants plus tard, avoir une réponse qui est inspirée par Satan. Donc ça nous montre comment que nous pouvons être facilement aussi habité par les pensées, nos propres pensées, au lieu de celles de Jésus-Christ. Voilà pourquoi qu'on a besoin encore de bien discerner, parce que l'ennemi est subtil, l'ennemi est capable d'amener à travers notre intelligence, nos raisonnements, notre esprit, des choses qu'on pense que ça vient de Dieu, mais que ça vient de notre propre intelligence, de notre propre personne. Voilà l'importance de discerner le combat qui se joue entre les forces de bien et du mal, afin de ne pas tomber dans le piège que Pierre, justement, est tombé. Alors, justement, on le voit dans le prochain dia, de laisser aucune prise à Satan. Qu'est-ce que ça signifie de donner aucune prise à Satan? Et nous allons regarder quelques points que vous pouvez noter. Se repentir le plus vite possible dès que nous avons conscience d'avoir ouvert la porte et d'avoir désobéi à Dieu ou causé du tort à autrui. Dès que nous savons que nous sommes dans le péché, dès que nous avons fait tort à quelqu'un, il ne s'agit pas d'attendre des jours, des semaines pour que peut-être la personne ne se rappelle plus de ce qu'on a fait. Non, on a besoin, dès qu'on le sait, on a besoin de demander pardon à Dieu en premier et pardon aussi aux autres. Parce que tant qu'on ne le fait pas, l'ennemi va venir nous acharner. L'ennemi va dire, mais tu n'es pas capable de pardonner, tu te dis fils de Dieu, mais tu n'es pas capable de pardonner, tu n'es pas capable. Reste dans cette attitude-là, moi ça me convient. Et dans ce temps-là, on ne fait pas la volonté de Dieu. Résister à la tentation et aux séductions de l'ennemi. L'ennemi vient souvent par des pensées, par des attitudes, nous souffler à l'oreille de faire telle chose. On a besoin de résister, de discerner afin de résister et de ne pas tomber aux séductions de l'ennemi. Demander chaque jour la protection du sang de Christ sur nos corps et nos pensées. Jour après jour, dès le matin, on doit prier « Seigneur, préserve-moi des attaques de l'ennemi, préserve-moi des pensées, mon esprit, de toute séduction de l'ennemi. » On a besoin de nous rappeler qu'on doit rester humble, que nous ne pouvons pas croire que nous sommes tellement bons chrétiens qu'on ne va pas succomber à la tentation ou aux séductions de l'ennemi. Veiller et discipliner nos pensées, ça c'est très important. Comme on l'a dit, c'est facile de dire « oui, ça c'est les pensées de l'ennemi, c'est à cause de lui ». Mais nous avons aussi nos pensées qui viennent de nous. On a besoin de les discipliner. Dès qu'on voit que nos pensées vont dans une direction qui ne plaît pas à Dieu, on a besoin de demander pardon. On a besoin de revenir dans la présence de Dieu. Dans le prochain diable, ne pas nous mettre dans des situations à risque. Si vous savez que vous êtes faible dans une certaine situation, par exemple sur Internet ou en allant à telle place ou en faisant peut-être, je ne sais pas, boire d'alcool ou d'autres choses. Si vous savez que vous êtes faible dans ces moments, dans ces choses, alors n'allez pas, pour pas que justement l'ennemi puisse venir. Généralement au début, on est prêt à ouvrir nos yeux à la tentation, puis on dit oui, on va être capable de supporter, capable de résister. Mais là, si on laisse une porte, l'ennemi va gagner. Demeurer dans la présence du Christ et son esprit. Nous avons besoin de chaque jour de continuer de dire Saint-Esprit, viens, demeure, je demeurerai en toi. Saint-Esprit, continue faire ton travail en moi afin que tu te révèles à moi, de savoir qui est Dieu, qui est le Seigneur, afin que je puisse discerner aussi ce qui se passe devant moi. Prendre conseil auprès des personnes spirituelles et dignes de confiance. Comme l'a dit ici, c'est important. Oui, on trouve la parole de Dieu justement des recommandations de comment combattre l'ennemi. On peut, à travers la prière, à travers le jeûne, aussi à travers le Saint-Esprit, il peut nous aider justement à discerner. Mais on a besoin aussi des fois de demander à nos frères et sœurs, au pasteur ou à une autre personne de confiance par rapport à des situations pour qu'ils puissent nous guider, nous encourager à aller de l'avant. Oui, le diable peut agir sur les hommes. Même en tant que chrétien, libre de nouveau, rappelez-vous, Satan n'a sur vous l'emprise que vous lui concédez. Autrement dit, si vous ne concédez rien, il ne pourra rien contre vous. Donc voilà les premiers domaines de l'ennemi qui sont les hommes. Voici le deuxième. Les structures religieuses et étatiques. Ouvrez votre Bible dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 4 qui dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, et ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le diable et les démons peuvent se servir des structures, des traditions, des institutions pour accomplir le sombre dessein. C'est important de ne pas diaboliser les autorités, qu'elles soient religieuses ou étatiques, le gouvernement. Parce que justement, dans Romains 13, vous savez que Dieu nous rappelle qu'il a établi une autorité. Et on a vu dans ce texte qu'on doit prier pour les autorités. Mais on pourrait dire que le diable et ses démons peuvent se servir des structures, des traditions, d'institutions, même religieuses, pour accomplir ses sombres desseins. Regardez, vous avez vu cette semaine un peu toute cette communauté autochtone, je veux dire, cette délégation qui a été à Rome pour parler au pape pour qu'il y ait des excuses qui se fassent par rapport au pensionnat. Pensionnat autochtone qui a été émis, qui avait été donné par le gouvernement, qui avait été mis en place par le gouvernement et qui avait été géré par l'Église. Ces personnes dans ces pensionnats ont pris l'initiative que soi-disant d'éduquer des Indiens dans des valeurs chrétiennes étaient aussi, malheureusement, aussi des hommes de Dieu. Mais nous pouvons voir que dans ce moment-là, ils n'étaient pas guidés par l'Esprit de Dieu, mais par leur propre intelligence. Comme dans l'exemple de Pierre. Voilà pourquoi que ça a eu des dégâts tellement incroyables. Voilà encore pourquoi que des années plus tard, cette blessure est vive dans, justement, dans les peuples autochtones. Paul avait conscience du combat spirituel. Et voilà pourquoi que justement il dit dans 1 Timothée 2, l'importance de prier, d'intercéder pour les gouvernements, pour les autorités. Même si peut-être le gouvernement et les autorités ne font pas la volonté de Dieu, ne font pas ce qu'on aimerait faire. Surtout des fois, j'entends dans ce temps de pandémie, et surtout ceux qui sont un peu contre un peu les mesures, contre un peu cette pandémie, qu'ils ne peuvent plus prier pour le gouvernement parce qu'ils sont contre justement ces mesures sanitaires et autres. Mais on a besoin de prier. On a besoin de prier, de dire « Seigneur, garde nos autorités ». Afin que nous puissions garder la paix, afin qu'il puisse nous amener le bien, afin qu'il puisse aussi, justement, comme il dit dans verset 4, il veut encore que ces hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi on a besoin de prier encore pour les autorités. Voilà pourquoi on a besoin de prier pour tous les leaders des familles d'Église qui ont un rôle important à jouer, qui ont une lourde tâche de responsabilité de soutenir, de diriger aussi l'Église dans la suite. Le troisième domaine de l'action de l'ennemi, c'est les lieux dits, les villages, les villes. Vous savez, ici au Québec, comme ailleurs dans le monde, il y a des lieux, des villages, des endroits qui sont littéralement plombés au niveau spirituel. Toutes les tentatives de témoignage, d'évangélisation, d'implantation d'église, tout ça, ça tourne, ils ne sont pas capables de le faire. L'opposition est normale et systématique dans ces endroits. On ressent des fois spirituellement quand on est dans un certain lieu, comment que l'endroit est chargé. Il est comme habité d'un point de vue spirituel. Des êtres spirituels, c'est-à-dire des démons qui sont présents à cet endroit. Je me rappelle à un moment donné, on avait été invité par des personnes qu'on venait à peine de connaître, ce sont des compatriotes des Suisses, et ils voulaient faire une fête dans leur chalet. Et on s'est dit, ben, comme on est nouveau, on va y aller. Et on était là-bas avec nos filles. Et à un moment donné, ma femme, Nicole, dit, mais je ne me sens pas bien ici. Même mes filles sentaient qu'elles n'étaient pas bien. Et moi, je leur disais, non, 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 on va rester. Comme on va faire respect pour eux, on est venus et tout ça. Puis, ils continuaient. Puis, je voyais vraiment que Nicole n'était pas bien. Mais à un moment donné, Nicole a dit, non, moi, je pars. Et puis, elle a pris les filles. Puis après, on est aussi parti. Il y avait dans cet endroit des choses qui se faisaient. Par la suite, j'ai appris que bon, c'était un lieu où il y avait beaucoup de drogue, d'alcool qui se faisait, tout ça. C'était des endroits où elle avait ressenti une lourdeur spirituelle qui était là. Donc, ça peut être les pratiques des guérisseurs, des magnétiseurs dans des lieux. Ça peut être des ésotérismes dans toutes ces formes. Ça peut être la sorcellerie qui reste bien dans certaines régions. On voit dans certaines régions où il y a beaucoup de sorcellerie, comment que c'est difficile que l'évangile puisse pénétrer. La franc-maçonnerie, ces sociétés secrètes qui sont bien établies, aussi justement fait que l'évangile n'arrive pas à prospérer dans ces endroits-là. Les pactes avec le diable ou les démons, il y a des gens qui ont fait des pactes pour que justement ces lieux, ces villages, ces endroits soient vraiment sous l'emprise de l'ennemi. Les suicides, les meurtres, les infanticides peuvent aussi justement freiner aussi. Les pratiques du péché de manière générale, ou certains péchés en particulier, comme par exemple la confiance démesurée en soi, l'argent, les richesses, toutes sortes de choses qui peuvent nous permettre, ne pas permettre que justement Dieu puisse agir. Ça ne veut pas dire que ces endroits-là sont automatiquement toujours à l'ennemi, mais il y a besoin de beaucoup de prières, il y a beaucoup besoin de discernement, il y a beaucoup besoin de combat pour pouvoir combattre ces choses qui ont été mises en place afin de les enlever. Et voilà pourquoi qu'avec le discernement, nous allons voir que dans ces lieux invisibles, et demander une libération par l'Esprit de Dieu, pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. J'aimerais juste faire une petite parenthèse maintenant par rapport, vous avez peut-être déjà entendu, les forces ou les esprits territoriaux. Il y a certains ministères qui vont croire que justement dans chaque ville, chaque territoire, chaque village est sous l'autorité d'un ou de plusieurs de ces esprits. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils veulent discerner ces esprits, puis ils vont après faire des marches de prière autour de la ville, sur la montagne, pour vraiment délivrer, chasser vraiment ces autorités. Mais le problème avec cette approche, c'est qu'il n'y a pas d'assise biblique réellement. Dans l'Ancien Testament, on voit une seule place qui fait référence aux esprits territoriaux, et c'est par rapport aux païens idolâtres. Eux, ces païens, croyaient qu'en changeant de lieu, la bénédiction et la victoire allaient être au rendez-vous. Mais nous ne voyons pas jamais, même dans les actes des apôtres, où on voit comment que l'Église se forme. On ne voit jamais les apôtres ou les chrétiens mener le combat contre des esprits ou des dominations en faisant des marches de prière autour de la ville. Oui, comme je vous ai dit, il y a peut-être des endroits, comme on l'a vu, qui sont vraiment plombés spirituellement, qui sont difficiles. Mais ce n'est pas partout. Et ce n'est pas qu'on doit faire la guerre contre ces esprits. Je me rappelle que oui, c'est vrai que j'ai fait régulièrement des marches de prière quand on travaillait avec les jeunes de rue. Et je pense que vous avez déjà partagé comment qu'un jour, on a senti qu'il fallait faire une marche de prière autour d'un parc où il y avait beaucoup de drogue, de délinquance. Mais c'était juste un parc. Il n'y avait pas de force territoriale, mais il y avait beaucoup, c'est vrai que l'ennemi était là. Et le jour où on a fait... On a marché autour de ce parc, on a vu la délivrance, on a vu la puissance de Dieu se manifester, on a vu que justement tous les dealers de drogue sont partis, tous ceux qui sont venus chercher des drogues sont aussi partis. Dieu est capable de renverser les démons, ces forces qui sont là. Le quatrième point qu'on voit, c'est les éléments naturels, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, l'air. Ce sont aussi d'autres domaines que l'ennemi peut utiliser pour accomplir ses desseins. Mais on doit faire juste attention, prudence, discernement, que dans toutes les catastrophes qui surviennent, il ne faut pas croire que toutes les catastrophes qui arrivent sur la terre sont le signe de l'ennemi, du démon. Ne clamons pas haut et fort, comme certains prédicateurs ou prophètes, que le diable et le démon sont à l'origine de telle ou telle catastrophe, ou que le tremblement de terre dans telle place est un jugement de Dieu à cause du péché du peuple. Faisons attention avant de juger trop vite de ce qui se passe autour de nous. De parler par nos propres intuitions, par nos propres intelligences. C'est vrai que l'ennemi peut travailler à travers les éléments pour pouvoir condamner, juger telle chose. Mais nous devons plutôt les aimer. Regardez quand dans Jean chapitre 3, verset 17, qui dit, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Alors oui, c'est vrai qu'on voit dans la parole de Dieu aussi même que des fois Dieu amène aussi justement des catastrophes. Mais c'est l'ennemi qui utilise ces catastrophes pour amener destruction. Mais Dieu est venu pour pas condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Donc apprenons à discerner les attaques de l'ennemi dans les éléments, afin que nous puissions voir si c'est réellement quelque chose qui est une catastrophe naturelle ou si c'est vraiment l'ennemi qui s'acharne aussi sur une situation. Et il y a encore d'autres domaines, on peut le voir, où l'ennemi agit. Par exemple, sous le plan de la pensée, des idées et même de la théologie. En Timothée chapitre 4, verset 1, il dit « Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. » On peut voir que justement sous le couvert du christianisme, il y a toutes sortes de légalismes. On peut avoir des légalismes de la pauvreté, du végétarisme, de l'autorité, du bonheur social, de la liberté sexuelle, de ce qu'on appelle aujourd'hui même l'évangile de la prospérité. Toutes sortes de légalismes qui peuvent être nous dirigés vers l'ennemi. Voilà pourquoi que, comme le 1 Timothée 4, on a besoin de discerner par l'esprit. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui vont se détourner la foi pour croire à tel prophète, ou à tel pasteur, ou tel prédicateur. Des pseudo-révélations qu'ils ont reçues de Dieu, mais qui en réalité viennent d'eux-mêmes. Nous devons faire attention, surtout justement, de tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce que nous lisons sur Internet, afin de dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté? Est-ce que c'est vraiment de toi? Est-ce que c'est vraiment de ta parole de Dieu? Lorsque quelqu'un annonce quelque chose que nous n'arrivons pas à trouver dans la parole, qui est contraire à la parole de Dieu, nous devons nous poser la question. Parce que la parole de Dieu est vraie, est vérité. Et Dieu ne peut pas être un Dieu de mensonge. Alors pour terminer, simplement retenons deux choses principales. C'est en nous que le combat spirituel se joue. Dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos choix. Voilà l'important justement. Que notre cœur, que nos pensées soient tournées en tout temps vers Jésus, afin que l'ennemi ne puisse pas voler ou détruire qui nous sommes en Christ. Vous savez, dans Jean chapitre 10, verset 10, qui dit, l'ennemi vient pour voler, pour tuer, détruire. Et il va continuer de le faire jusqu'à la fin du monde. On va prendre dans quelques instants la Sainte Cène pour nous rappeler ce que Jésus a fait et qu'il est mort pour nous donner la victoire sur le péché. Qu'à travers ce repas, qu'on se rappelle que Jésus va nous donner encore la victoire sur les pensées, sur l'ennemi qui nous tente, qui essaye de nous faire changer de cap, qui essaye de nous donner peut-être des beaux mensonges pour pouvoir qu'on puisse écouter et dériver ailleurs. La deuxième chose, l'ennemi n'a sur vous que l'emprise que vous lui concédez. Si nous ne donnons rien à l'esprit du mal, si nous sommes tout le temps en Jésus, si tout le temps le Saint-Esprit peut nous conseiller, peut nous diriger, l'ennemi ne pourra rien contre nous. Jean chapitre 4, versets 7 et 8, on connaît très bien ce texte. Jean chapitre 4, versets 7 et 8 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si nous voulons gagner des batailles, nous avons besoin de discerner où est le combat. Nous avons besoin de discerner si nos pensées sont celles de notre propre être ou si sont les pensées du Christ. Voilà pourquoi il nous dit de nous approcher de plus en plus de Dieu. Lui va s'approcher encore de nous. On a besoin de nettoyer nos cœurs, on a besoin de purifier nos cœurs, on a besoin de nettoyer nos mains pour pouvoir venir pur devant le Seigneur. Et à travers la Sainte Cène, c'est le désir qu'en se rappelant ce que Jésus est venu faire il y a plus de 2000 ans, nous puissions réaliser qu'on a encore besoin de sa grâce, de son amour, qu'on a besoin encore de son pardon, qu'on a besoin encore que nous continuons de travailler uniquement à travers le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous faire aller de l'avant. Alors, prenons un petit temps de silence. J'aimerais juste que quelqu'un puisse aller chercher Jeanne et aussi Ghislain pour prendre la Sainte-Seine avec nous. Et puis, j'aimerais demander donc au groupe de louanges de venir aussi. On va faire aussi un petit chant aussi pour nous préparer aussi à ce temps de Sainte-Seine. Mais prenons simplement quelques instants de silence pour voir comment est-ce que nous allons nous présenter devant Dieu ce matin. Peut-être que cette semaine, l'ennemi a gagné sur vous. C'est possible que peut-être vous êtes tombé dans la tentation. C'est possible que peut-être l'ennemi a réussi de mettre des pensées, de mettre notre propre intelligence au devant, au lieu de mettre la pensée du Christ. Le Seigneur veut nous dire à travers ce repas, à travers ces éléments que nous allons prendre, qu'il est mort sacrifié et que ce sacrifice, sa puissance qu'il a eue à travers la résurrection sur la mort, nous donne encore la vie. Que nous prenons, que nous sommes prendre aussi ce repas, dans le sens où tu veux dire, Seigneur, je veux qu'on m'approche encore plus de toi. Je veux encore purifier mes mains. Je veux purifier mon cœur, afin que vraiment tout ce que je suis puisse uniquement te glorifier, toi. Que je puisse combattre comme un véritable soldat de Dieu, pour pouvoir aller de l'avant. Que je puisse intercéder, que je puisse discerner les combats qui viennent devant moi, afin que je puisse combattre avec les bonnes armes. Nous savons qu'il reste peu de temps avant que Jésus-Christ revienne. L'ennemi le sait très bien, et voilà pourquoi il s'acharne. On le voit autour de nous, combien il s'acharne sur les chrétiens, combien il y a de chrétiens qui sont persécutés, combien il y a de chrétiens qui sont mous, qui sont tièdes, combien que les chrétiens avec la pandémie se sont détournés de l'Église. On a besoin de vraiment dire, Seigneur, je veux m'approcher d'un cœur nouveau vers toi. Alors, prenons quelques instants de silence. Et ensuite, on va prendre un chant pour simplement nous préparer à venir dans la présence de Dieu. Merci.
Alors, faisons cette prière d'approche. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, inonde-nous de la puissance de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions apprécier d'une toute nouvelle manière les souffrances, la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Alors que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, puisse ton Esprit nous aider à entrer en communion intime avec Christ qui a donné son corps et son sang pour tous. Puisse ton Esprit nous unir à Christ et les uns aux autres dans le but d'accomplir ton ministère dans le monde. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et en donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour vous, garde vos corps et vos âmes pour la vie éternelle. Prenez, mangez ceci en mémoire de Jésus-Christ, mort pour vous. Nourrissez-vous de lui dans votre cœur, par la foi, avec action de grâce. De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour vous, garde vos corps et vos âmes pour la vie éternelle. Buvez cette coupe en mémoire du sang de Jésus-Christ, répandu pour vous, et soyez reconnaissants. » Nous allons prendre encore la deuxième strophe aussi de ce chant et que nous puissions continuer de remercier le Seigneur que ce corps qui a été brisé nous donne la vie, que ce sang encore lave nos impuretés, lave nos péchés, nous permet de rebâtir, de continuer avec le Seigneur et qu'on puisse aller de l'avant dans le discernement du Saint-Esprit pour que nous puissions combattre le bon combat et que nous puissions
être capable de voir les ruses de l'ennemi et que nous puissions aller dans la victoire par le Seigneur.